Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Félix-Antoine Tshisekedi prend le bâton de commandement de la SADC pour l'exercice 2022-2023. C'était hier, au cours des travaux du 42e sommet ordinaire de la SADC à Kinshasa. Il sollicite d'ores et déjà le soutien de ses pairs à son gouvernement pour concrétiser les objectifs du programme d'intégration régionale. De plus en plus de malades de tuberculose à la prison centrale de Bounia en Ituri. En deux mois, on compte au moins 122 détenus tuberculeux, rapporte le directeur de cette prison. Situation consécutive aux mauvaises conditions de détention dans cette prison qui compte aujourd'hui plus de 2300 détenus. Et puis, campagne pour rapprocher les jeunes des services de sécurité en faveur de la paix dans Beni et Butembo. Elle est lancée par les responsables de la jeunesse en commune Bungulu de Beniville. Pour en parler, nous recevons Calvin Maliro, président de la jeunesse de la commune Bungulu. Madame, Messieurs, bonjour. La RDC affirme son engagement à appuyer la mise en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADC. Cet engagement est celui que le chef de l'État congolais a annoncé hier lors de la cérémonie d'ouverture du 42e sommet ordinaire de la SADC au Palais du Peuple. Un engagement pris devant 12 chefs d'État et représentants des gouvernements de la sous-région en sa qualité d'actuel président de la SADC, exercice 2022-2023. Plus de détails avec Billy Van Lutumba.
Dans la suite de cet engagement, Félix Tshisekedi invite ses pairs de la SADC à soutenir son gouvernement pour que les objectifs du programme d'intégration régionale soient concrétisés.
J'aimerais ici souligner que le développement de l'infrastructure est un élément essentiel à la croissance économique de notre région et de ce fait s'impose comme une priorité de la SADC.
Le nouveau président de la SADC a par ailleurs insisté sur un travail en étroite collaboration avec tous les États membres pour une véritable intégration régionale. C'était peu avant de condamner une fois de plus l'agression de la RDC par le Rwanda.
Permettez-moi de remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Et nos remerciements appuyés à la République d'Afrique du Sud, la République du Malawi et la République unie de Tanzanie, dont les vaillants soldats partagent leur sort avec les nôtres au prix du sacrifice suprême pour que la paix revienne dans la partie est de notre pays.
Prévu pour deux jours, les travaux de ce 42e sommet de la SADC se sont clôturés hier même par une série de résolutions.
Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, le chantier de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique du parc national des Virunga à Rwanguba a été sérieusement endommagé lors des combats entre les FARDC et le M23. C'était dans la matinée de mardi 16 août dans le territoire de Rutshuru. Dans un communiqué publié hier, la direction du parc national des Virunga indique que les dégâts ont été causés par des tirs d'artillerie lourde provenant des positions du M23. Les détails avec Paul Matendo Mayamba.
Ces tirs ont entraîné entre autres la chute de deux engins explosifs au milieu du chantier de l'ICSN à Rwanguba, causant des dégâts importants, notamment sur les équipements des chantiers, les installations résidentielles pour les travailleurs et les ateliers de construction, indique le communiqué. Il précise qu'aucune victime n'est à déplorer parmi les membres du personnel, car les autorités du parc avaient déjà procédé à une évacuation dès le début de l'attaque, signalant que le parc national des Virunga est au cœur de la région affectée par ces combats opposant les FARDC à la rébellion du M23. Les secteurs des gorilles de montagne dans la partie est du parc, se trouvant à cheval entre le Rwanda et la RDC, est l'objet d'intenses combats depuis octobre 2021. Le 22 novembre dernier, Enekogarde Étienne Karanouchinia avait été tué au cours d'une violente attaque contre un poste de patrouille de l'ICSN à Bukima. Les centrales hydroélectriques du parc des Virunga sur la rivière Rutshuru, notamment Rwanda, Rwanguba et Matebe permettront à terme de produire près de 42 MW d'électricité, ce qui fera de ce parc la première source d'énergie dans cette partie est de la RDC.
Nord-Kivu toujours, plus de 400 personnes blessées par balles ou par armes blanches ont bénéficié d'une prise en charge médicale et psychosociale gratuite depuis le début de cette année à l'hôpital CBC Andosho de Goma. C'est dans le cadre du projet chirurgie de guerre mis en place par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, un projet salutaire pour la population et qui s'étend à Bukavu et à Beni. Nous l'avons visité hier à Goma. Un aperçu du dit projet dans ce reportage rendu par Rachel Kiesé.
Ce projet existe depuis 10 ans à Goma. Il se focalise sur la prise en charge médicale des blessés de guerre et des incidents sécuritaires dans cette zone des conflits récurrents. À titre d'exemple, au moins 533 personnes ont été soignées à Goma en 2021 contre 411 personnes soignées jusque-là en 2022 et 211 malades à Beni, indique le CICR. Parmi ces malades, une cinquantaine des victimes suite aux manifestations anti-MONUSCO enregistrées à Goma, a précisé Anne-Catherine Muller, chef de projet au cours de cette visite. Un travail complexe, reconnaît-elle, surtout pendant les moments des crises.
On fait la prise en charge, qui veut dire qu'on commence avec une stabilisation quand le malade arrive. Après, on fait les actes opératoires. Donc, chaque malade, il peut suivre jusqu'à 3, 4, 5 interventions chirurgicales. Ça dépend de la blessure.
Les bénéficiaires, quant à eux, ne font que remercier le CICR pour ses soins gratuits et spécialisés, alors que nombreux sont vulnérables. Témoignage de Joseph Angui.
J'ai été fusillé par les bandits alors que j'accompagnais un ami. Je demanderai à Dieu de bénir le CICR. Nous sommes bien soignés ici, nous mangeons et nous sommes bien pris en charge.
Notez que ce programme prévoit plusieurs volets, notamment le suivi psychosocial et la réinsertion socio-économique pour certains cas, le transport des malades venus des coins éloignés ainsi que la restauration pour tous les malades hospitalisés.
À Butembo, le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Hang, appelle les forces de l'ordre à prendre courage en dépit du contexte difficile de leur travail, surtout en cette période de tension. Il a dit hier au cours d'une parade spéciale tenue à l'état-major de la police de Butembo. Cet officier supérieur qui séjourne dans cette ville, dans la suite du gouverneur du Nord Kivu, encourage aussi la collaboration entre la police et la population en vue d'une bonne sécurisation de cette entité. On écoute le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Hang.
Vous savez ce qui s'est passé à Butembo. Je ne suis pas venu comme à l'ordinaire pour une parade comme à l'ordinaire. Donc il s'est passé des choses de nature à décourager notre population par rapport à notre prestation. On a défoncé la prison de Kangwangura. On a tué des policiers de l'autre côté à Gangote. Ce sont des choses qui essayent un peu de décourager la population. La population a trouvé que comme si nous n'avons pas la force qui nous sécurise, qui sécurise nos biens. Il fallait que je vienne réveiller mes hommes pour leur dire comment ils doivent travailler. Voilà un peu la quintessence de ma portée ici. Comme j'ai insisté sur leur courage. Je suis venu pour ça. Les principes sont tels que, comme je viens de leur dire, à 80% les informations pour bien veiller sur les personnes et leur bien, nous viennent de vous, la population. Nous, en tenue comme ça, c'est à 20% que nous tombons parfois sur des occasions. Mais sinon, c'est vous. Sans qu'il y ait ce mariage, la police va travailler avec l'aide.
Qu'est-ce que vous attendez de la population?
La collaboration avec la police. De la sorte, nous allons tous redresser la société. Nous allons aller de l'avant. Nous allons avoir une vraie sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement la police non plus. La population doit travailler la main dans la main avec nous.
Pendant ce temps, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, a présenté hier son plan opérationnel national. Au cours d'un atelier tenu à Kinshasa, les participants ont décortiqué les grandes étapes des dispositions techniques de l'opérationnalisation de la stratégie nationale du PDDRCS. Une trentaine des participants ont étudié le document du plan opérationnel et ont donné leurs avis. Après validation, il y aura l'élaboration des plans opérationnels provinciaux pour la paix dans l'Est de la RDC. Hubert Balolagui.
Créé en juillet 2021, le PDDRCS fusionne les anciens programmes STAREC et UNPNDDR. Il se focalise sur l'engagement communautaire et renforce la résilience des communautés pour que les bénéficiaires soient des acteurs de paix. Tommy Tamboué, coordonnateur national du PDDRCS, explique les travaux réalisés à cet atelier.
Il fallait éclater de manière pratique qu'est-ce qui doit être fait dans chaque pilier de ce plan stratégique. Et ça va avoir quel coût et comment et quand il faut le faire, avec quoi. Maintenant, au niveau de Kinshasa, il était question d'ouvrir un atelier sur l'ensemble des activités relatives à la coordination.
Les coordonnateurs humanitaires en RDC et partenaire du gouvernement, Bruno Lemarquis, espère déjà à la réussite de ce programme.
L'étape d'aujourd'hui, elle est vraiment importante. C'est le premier étage de la fusion. refuser, puisque c'est le plan opérationnel national, et très vite il faudra donc les plans provinciaux pour que sur le terrain les choses avancent et que les attentes qui ont été créées par ce programme ne soient pas des fausses attentes qui pourraient créer des déceptions, mais vraiment qu'il y ait un avenir pour les communautés de l'Est du Congo en termes de cette réintégration des combattants.
Bientôt seront élaborés les plans des provinces de l'Ituri du Nord et Sud Kivu.
Au Kasaï central, le gouvernement de province investit la commission justice, vérité et réconciliation, ce à travers un arrêté signé mardi par John Kabea. C'est à la suite des événements de Kamuina Sapu que cette commission a été proposée par la population. Sur la liste, on retrouve 11 membres appelés commissaires venus des différentes couches sociales. François Kadima nous en parle.
La mise en place de cette commission fait suite aux consultations populaires qui avaient été organisées au Kasaï central par rapport au conflit de Kamuina Sapu. Dans les rapports faisant suite à celle-ci, la population avait souhaité la création d'une commission justice, vérité et réconciliation. Elle avait soutenu que ce mécanisme de justice traditionnelle est une réponse extrajudiciaire adéquate aux crimes graves commis dans le Kasaï. Les soucis est de connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans la région entre 2016 et 2017, obtenir réparation et éviter que cela ne se reproduise. C'est dans ce cas cadre Kennedy portant création, organisation et fonctionnement de cette commission provinciale dont le Kasaï central a été adopté par l'Assemblée provinciale. L'investiture à ce jour de ces commissaires qui ont un mandat de 3 ans et la suite du processus. Dans l'arrêté du gouverneur de province, on retrouve 5 hommes et 6 femmes venues des différentes couches sociales. Déjà, plusieurs organisations dont la Société congolaise pour l'état des droits saluent cette investiture de l'équipe qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de cette commission. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, en Ituri, la prison centrale de Bounia fait face à un effectif élevé des malades de tuberculose. En l'espace de 2 mois, cet établissement carcéral a enregistré au moins 122 détenus malades de tuberculose. Ces chiffres sont communiqués par le directeur de cet établissement pénitentiaire. C'est confiant à Radio Kapi, le colonel Camille Zonzi indique que cet accroissement est dû aux mauvaises conditions de détention dans cette prison qui compte aujourd'hui plus de 2300 détenus. Seuls 40 malades sur 122 sont gardés dans une cellule d'isolement érigé par les autorités, ce qui représente un risque très élevé de contagion, indique-t-il. Camille Zonzi explique la situation au micro d'Ezekiel Mousalia.
Nous avons au jour d'aujourd'hui 122 cas de tuberculose et catégorisés à 2. Il y a 3 de multirésistants et les restes, ce sont des tuberculeux qui sont suivis chaque jour par le traitement que la coordination des tuberculeux leur donne. Donc, le risque, c'est quoi? Aussi, le temps que nous avons un petit espace, il y a qu'un petit pavillon là pour l'isolement de 40 seulement. Parce que la condition de la détention par rapport à l'effectif, il n'y a pas de l'espace. Donc, il y a aussi risque de contamination si on n'a pas détecté les cas de détenus tuberculeux qui n'ont pas été suivis sur le plan médical. Je crois que nous avons lancé déjà un cri. Il y a un projet qu'on doit délocaliser la détention de mineurs. Il y a des retombées. On vient de parler du problème des retombées sur le plan sanitaire. Mais sur le plan alimentaire, ça joue aussi. Vous voyez, quand les gens sont attassés, il y a beaucoup d'effectifs qui croient et que vous avez un budget qui ne change pas. Et c'est la quantité alimentaire qui baisse. Et le paix qu'on va leur donner là, par rapport au passé, ça diminue le poids.
Parlons culture à présent. La compagnie Théâtre des Intrigants lance ce jeudi dans les médias et les plateformes numériques l'édition numérique de son festival dénommé les Journées Congolaises de Théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse, Jokotège. Ce festival va se clôturer le dimanche 21 août prochain. Quelques meilleurs spectacles de la 36e édition du festival Jokotège, organisé en mai dernier, seront ainsi proposés au public. Question d'offrir des moments de détente sains et agréables aux enfants pendant leurs vacances et permettre aux parents d'apprécier le talent de leurs enfants qui ont partagé la même scène avec les troupes professionnelles. Valentin Mitendo, directeur artistique de la compagnie Théâtre des Intrigants, explique les avantages de cette activité au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous donnons l'occasion aux écoles de pouvoir présenter leur travail à un nombre de personnes très élevé. Nous leur donnons l'occasion aussi de se faire apprécier par leurs collègues élèves, par le public, le grand public. Les parents aussi ont l'occasion de voir ce spectacle parce qu'ils n'ont pas été à l'édition en présentiel. Mmh. Mais aussi, je crois que là, nous confirmons une tendance qui me paraît importante, c'est plonger dans le numérique. Qu'on le veuille ou non, présentiel ou non, le numérique devient maintenant la voie tracée pour pouvoir agir. Mais c'est aussi pour atteindre une plus grande audience. Parce qu'en fait, la présentielle peut vous présenter 10 000 participants. Mais vous, si vous êtes sur 10, 15 médias solides, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous atteignez plus de monde. Et donc, vous apportez un peu plus de contribution à l'éducation de la communauté, mais en même temps à l'apport de la nourriture spirituelle dont les gens ont besoin.
Actualité internationale.
Le Mali, à nouveau à l'offensive contre la France, cette fois devant les Nations Unies, alors que le retrait de la force Barkhane s'est achevé en début de semaine, le ministre malien des Affaires étrangères a écrit une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer des violations de l'espace aérien du Mali. Abdoulaye Diop accuse aussi l'armée française de soutien aux djihadistes. Un tribunal espagnol a décidé que le corps de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, décédé le mois dernier à Barcelone en Espagne, devait être remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé en Angola. En effet, le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais est au centre d'un bras de fer juridique entre sa veuve et l'une de ses filles.
L'invité.
Une campagne de sensibilisation pour approcher spécialement les jeunes des services de sécurité. Objectif, favoriser le retour de la paix dans la région de Beni et Butembo. Elle est lancée par les responsables de la jeunesse dans la commune Bungulu, ville de Beni. Pour en parler, nous recevons Calvin Maliro, président de la jeunesse de la commune Bungulu. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Calvin Maliro, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous avez entamé une série de sensibilisations sur les rapprochements des jeunes avec les services de sécurité. Pourquoi cette thématique, surtout pendant ce moment précis?
Comme vous le savez, la ville, tout comme le territoire de Beni, est secouée par l'insécurité, les manifestations des jeunes et autres couches de la population. Il s'observe également une sorte de méfiance entre toutes les couches de la population et les autorités ou alors les services de sécurité en ville de Beni par rapport à ce qui se passe. C'est dans ce cadre que la jeunesse de la commune Bungulu a entamé une séance de sensibilisation, d'échange avec les jeunes pour que nous puissions ensemble trouver un compromis sur l'accompagnement des services dans cette zone qui est sensible à l'insécurité et aussi développer les mécanismes qui vont nous permettre à pouvoir accompagner bien évidemment ces services en identifiant les mouvements suspects, en identifiant les personnes impliquées dans les sécurités et aussi dans les massacre en ville de Beni, mais aussi les présenter au service spécialisé pour un jugement ou une audience à flagrance.
On a compris que depuis un certain temps, la jeunesse a tourné son canon sur les autorités, sur les services de sécurité, sur la MONUSCO, sur tout le monde. Comment on peut arriver à détourner cette pensée des jeunes de la violence vers la pacification?
Ce qu'il faut savoir est que en République démocratique du Congo, nous avons une seule armée qui est le FARDC. Il y a une seule police, la PNC et autres services de sécurité. Nous avons l'ANR, la DGM qui sont là pour accompagner le gouvernement dans son programme de la sécurisation. Et nous, comme population, nous avons l'obligation de les accompagner. Et c'est comme ça que, peu avant, nous avons d'abord commencé par l'identification de plusieurs problèmes qui semblent nous diviser. On a énuméré les problèmes liés au conflit foncier, il y a les problèmes liés au banditisme urbain, les incursions des hommes armés en ville, mais aussi les phénomènes kidnapping. Donc tous ces aspects ont fait l'objet de notre assise et après avoir identifié tous ces problèmes, bien évidemment, l'évasion dont les ennemis de la paix ont été à la base ne nous a pas également échappé parce que Beni et Butembo, ce sont deux villes sœurs et qui communiquent à tout moment. C'est comme ça que à commune de Bungulu, nous avons été avec les jeunes pour prendre des précautions. Savoir identifier les bandits, savoir identifier les mouvements suspects, mais aussi être à mesure de fournir des informations à temps réel à toutes les autorités selon la responsabilité de chaque service pour éviter la justice populaire. Nous avons également formulé une recommandation aux autorités de pouvoir aussi être expéditives, aussitôt être informées par rapport à ce qui se passe. Parce que les retards, quand il y a une alerte, fuite amène la population à faire une justice populaire contre celui qui a été attrapé. Pourtant, celui qui est attrapé, une fois auditionné, il peut avoir des informations à fournir aux autorités qui peuvent également les aider à trouver une solution durable au problème qu'il y a dans la communauté. La fierté que nous avons, c'est que les jeunes eux-mêmes se sont prononcés et eux-mêmes se sont engagés à pouvoir accompagner les services de l'État, parce que la sécurité, évidemment, c'est une affaire qui nous concerne tous et ça doit connaître l'implication de tout le monde.
Aujourd'hui, c'est la commune de Bungul qui a bénéficié de cette sensibilisation, mais vous pensez comment vous allez l'extendre dans les jours à venir pour que toutes les quatre communes de la ville de Beni soient bénéficiaires, mais pas seulement la ville de Beni, même la ville de Butembo et tout le nord Kivu.
Cette activité, évidemment, doit s'étendre à toutes les communes. On est en train de voir au courant de la semaine, on pourra organiser cette même activité dans les trois communes qui restent, mais aussi étudier dans quelle mesure on peut aller au-delà de la ville. Cela demande une petite concentration, mais aussi une mobilisation de moyens pour que ça puisse nous permettre d'arriver à Butembo, sillonner dans tous les territoires de Beni pour véhiculer le message de paix. Parce que on ne peut pas régler un problème en créant un autre. Nous souhaitons que tous les partenaires puissent nous accompagner dans cet élan pour que la paix et alors la paix durable puisse revenir en ville de Beni.
Calvé Malibu, nous vous disons merci.
Le président de la jeunesse de la commune Bungulu à Beniville s'entretenait avec Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.